BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est la France de BFM Bourse, elle se rassemble chaque après-midi jusqu'à 18h. Bienvenue à tous, on vous accompagne avec en fil rouge, il est là, Antoine Larigauderi. Rebonjour Antoine.
Rebonjour Guillaume.
Votre mot du jour.
Volatilité, c'est celle qui nous reprend avec un indice VIX à nouveau du côté des 20 points. Bon, on est à 19,25. Côté de l'indice de la volatilité de Chicago, le VIX, on a un Nasdaq qui est toujours en repli, moins 1,5%, mais enfin c'était plus de 2% tout à l'heure. Le Dow Jones, oui, qui est repassé dans le vert, plus 0,09%. Mais on sent que cet été s'annonce technique et un peu tumultueux après la très forte baisse des indices ce matin en Asie et puis une forte correction qui s'était déjà amorcée hier soir du côté de Wall Street. Au milieu de tout ça, le CAC 40 passe un petit peu entre les gouttes et ne perd que 0,39%, 8367 points avec un Eurostock 50 qui perd quasiment 1%. Et puis sur le marché d'échange, l'euro-dollar a bien enfoncé le palier d'un 14. On s'est bien installé dessous à 1,1383 désormais.
Effectivement, c'est un des phénomènes marquants du moment, la remontée vraiment spectaculaire du dollar, on en parlera dans un instant, alors que la tech trinque aujourd'hui. En Europe, une petite raison de se réjouir, une stat qui s'améliore, les indices PMI en zone euro au mois de juin, alors ils restent en contraction, mais quand même au plus haut de 3 mois, ces indices PMI à la faveur d'une détente des cours du pétrole, qui se traduit encore aujourd'hui d'ailleurs le baril de Brent à 77$, puisque les États-Unis donc ont décidé de suspendre, on vous en parlait déjà hier, de suspendre les sanctions sur le pétrole iranien, on verra si cela dure effectivement. On est au cœur de toutes ces batailles, à travers BFM Bourse et BFM Business, au cœur de l'ensemble des grands enjeux du moment. D'abord, l'actualité sanitaire en France. Le gouvernement active le plan Orsan au niveau 2, un plan qui permet une mobilisation renforcée du système de santé face à la canicule. Lors d'un colloque tout à l'heure, Sébastien Lecornu a demandé à la Caisse des dépôts et à EDF de trouver des solutions pour également adapter les écoles au réchauffement climatique. L'euro numérique, il franchit une nouvelle étape, étape majeure aujourd'hui, présentée comme une alternative à Visa et Mastercard pour les paiements électroniques. Eh bien, l'euro numérique a obtenu le feu vert aujourd'hui du Parlement européen, qui donc ce feu vert va permettre l'ouverture de négociations avec les États membres. La BCE pourrait émettre ses premiers euros numériques en 2029. Et puis, dans l'actu des entreprises, EssilorLuxottica et Meta annoncent le lancement d'une nouvelle collection lunettes dotées d'IA, plus accessible à partir de $300, non, même pas sous les $300, hein, le prix des lunettes, à moins de $300, pour essayer de toucher désormais une clientèle plus large. On en parlera aussi avec nos experts BFM Bourse jusqu'à 18h. Ils sont là, on est à vos côtés. On joue dans votre camp. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Ce soir, nos experts du club donc, qui viennent de nous rejoindre. François Chollet, le président de Montségur Finance. Bonsoir François.
Bonsoir Guillaume.
Et François Monnier en fil rouge, directeur de la rédaction d'Investir. Rebonsoir François.
Rebonsoir.
François et François sont là. Deux invités brillants. Alors brillants d'autant plus, vous êtes arrivés en moto, c'est ça?
Oui, la température est confortable.
Oui, c'est ça. Vous êtes arrivé en me disant, je viens de me changer, c'est pas possible. En moto dans Paris, il faisait 42, c'est ça, sur votre, voilà, avec la réverbération et tout. Eh ben, bravo d'être là, bravo d'être arrivé. On est content de vous
retrouver. Toujours.
Vous êtes déjà brillant, vous voyez, mais avant même de parler.
Sans maquillage.
Ouais, sans maquillage. Bon, l'euro face au dollar. C'est intéressant, là, ce qui se passe sur les devises. On va parler de la tech, bien sûr, ensemble dans un instant, qui trinque encore une baisse du Nasdaq. Mais d'abord, mine de rien, discrètement, le dollar remonte. Au point que l'euro aujourd'hui passe sous la barre d'un dollar 14, c'est quand même un phénomène du moment, parce qu'on se disait 2026 sera une année de poursuite de l'affaiblissement du dollar, et puis depuis un mois on voit l'inverse, l'euro vaut moins d'un dollar 14. Comment vous regardez? Alors, ça
c'est peut-être un peu plus récent que ça, puisque ça me paraît être le point de bascule de la première réunion du nouveau gouverneur de la Banque Centrale Américaine, Kevin Warsh, qui a effectivement fait bouger les lignes du côté des anticipations des marchés. Les marchés, souvenez-vous, il y a quelques mois, anticipaient, grâce à un nouveau président de la Banque Centrale, on va dire plus accommodant, des baisses de taux pour accompagner la croissance et le gouvernement de Donald Trump, et sa volonté surtout. Et en l'espace d'une réunion, on a basculé de deux baisses de taux attendues ou espérées au titre de 2026 à deux hausse de taux redoutée côté américain. Et donc, c'est un changement assez significatif des anticipations. Et ce changement de pied qui n'est pas de la forward guidance, c'est-à-dire qui n'est pas clairement énoncé par le gouverneur, mais qui est clairement sous-jacent dans son discours, est un changement de pied qui vient évidemment renforcer le dollar, puisque les investisseurs considèrent qu'il y aura une meilleure rémunération d'ici la fin de l'année sur le dollar qu'on aurait pu espérer avec les baisses de taux initiales. Donc, c'est vraiment un changement de pied, et je pense même que c'est sur ce changement de pied qu'on a le changement de marché qui s'est passé depuis 48 heures avec la consolidation d'un certain nombre de valeurs, notamment technologiques, dont les multiples étaient extrêmement élevés, tout simplement pour prendre en compte un vrai changement monétaire qui est de nature, en tout cas, à montrer la limite qu'il peut y avoir parfois à survaloriser tout simplement des multiples. Et des performances.
Et donc, tout vient pour vous. Alors, on est à 6 jours maintenant. 6 jours après la conférence de presse et la décision de la Fed, la conférence de presse de Kevin Warsh, on est en train de voir comment les choses infusent dans le marché. Et donc, le marché qui anticipe ces hausses de taux, ça fait baisser les valeurs de croissance et monter le dollar.
Si je dois résumer les deux points qui me paraissent importants à regarder pour les investisseurs en cette période estivale, c'est commencer par regarder l'élément clé de l'économie, c'est la réelle libération du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire on a fait un premier pas de détente qui ramène le pétrole à $73, effectivement, venant de 120, tout le monde respire. Mais la vraie question maintenant, c'est l'ouverture totale du détroit d'Ormuz pour que les échanges commerciaux reprennent et qu'il n'y ait pas de goulet d'étranglement inflationniste de cette partie-là. La deuxième chose, c'est cette partie, effectivement, des anticipations de politique monétaire de part et d'autre de l'Atlantique. Oui. Et là, de ce point de vue, c'est un changement qui est assez... une bascule, en tout cas, assez importante.
Effectivement, c'est un nouveau régime, là, sur le dollar, quand on voit la vitesse à laquelle le dollar est en train de remonter. Je suis investisseur, par exemple, je me mets dans la peau d'investisseur, je me dis, autant continuer d'investir à Wall Street, parce que non seulement ça cartonne avec la tech, mais alors en plus, la valeur de mon portefeuille, vu que le dollar remonte, est en train de me permettre de doubler la mise. J'exagère un peu en disant doubler la mise, mais voilà, ça me permet de renforcer encore mes performances, cette hausse du dollar. Est-ce que ça va encourager les gens à investir? Est-ce que ça doit les encourager à investir davantage à Wall Street, cette hausse du dollar? Est-ce qu'elle est amenée à durer, d'ailleurs, pour vous, François?
Je dirais non, parce que si vous êtes dans une perspective de forte hausse des taux US, ça risque de peser sur les performances boursières des valeurs tech, et quand vous achetez américain, vous achetez surtout de la tech. Donc c'est pas forcément se dire je vais gagner sur le dollar, mais si vous allez perdre après sur la monnaie locale en performance voire en moins value, c'est pas forcément le bon pari. Après, il est pas certain encore qu'il augmente ses taux. Là, on a eu un changement de discours, donc évidemment ça plaît pas à Trump, mais on voit que habilement il a gagné du temps parce que s'il y a une hausse des taux, elle n'interviendrait pas avant septembre. D'ici septembre, c'est une éternité dans le monde monétaire. Et encore plus sur les devises. Donc d'ici septembre, si les cours du pétrole retombent à 60, il va probablement changer son discours en juillet ou etc. Donc c'est pas encore ancré. Je trouve qu'il, de façon habile, il a laissé la possibilité de montrer qu'il était quelqu'un de pragmatique. Là, il a réussi son premier rendez-vous, qui est de dire je suis pas l'homme de Trump. Donc s'il faut augmenter les taux, en gros, je les augmenterai. Même si vous pensez que j'ai été nommé pour lui faire plaisir et baisser les taux. Mais il n'a pas laissé entendre qu'il allait appuyer sur le bouton une fois, deux fois. Donc, ce n'est pas encore garanti. Et surtout, je trouve qu'il a gagné du temps. Après, ça va dépendre. Est-ce que le Détroit, il est vraiment ouvert? Ça fonctionne. Mais jusqu'à septembre, on a eu 39 annonces d'accords de paix de Trump depuis le début du conflit. Donc il peut se passer énormément de choses. Donc la hausse de taux, elle n'est pas garantie, mais il a montré qu'il serait indépendant. Et ça, bien sûr, quand on est patron de la Fed et qu'on montre qu'on est indépendant, ça valorise le dollar, parce qu'à un moment donné, on se dit, est-ce que le dollar, ça va pas être une monnaie manipulée, comme on peut le voir dans certains pays.
Il a recrédibilisé le dollar.
Il a donné de la crédibilité.
Réancré le dollar.
Mais... pour moi, il n'a pas encore acté en disant c'est sûr, il y aura des hausses de taux, une, deux, voire peut-être plusieurs, puisqu'il nous donne rendez-vous finalement en septembre.
Bon, dollar qui remonte, donc l'euro vaut $1.1377 en ce moment. Alors on verra s'il y a des hausses de taux ou pas, ça peut participer le doute à faire baisser les valeurs de croissance, dont les valeurs tech. Ce matin en Asie, ça a été quand même spectaculaire, le Kospi a perdu 10%. Sur les marchés asiatiques, au global, 800 milliards de dollars sont partis en fumée tout à l'heure. Et on voit juste, François, que ça se propage aussi en Europe. ST Microelectronics perd 8%, Lanterne Rouge à 20 minutes de la clôture, et Soitec perd 7% ce soir.
Alors, pour revenir sur le Kospi, la baisse de 10% représente à peine quelques jours de cotation, puisque n'oubliez pas que le Kospi s'est adjugé 104% de hausse depuis le début de l'année. Autant dire un parcours assez extraordinaire, et de des valeurs du secteur des fabricants de semi-conducteurs, notamment des fabricants de puces et de mémoire, a été dans une performance redoutable ces dernières semaines. Donc on a une consolidation à ce stade qui est à la dimension des performances récentes de cette catégorie de boursière que nous avons depuis maintenant quelques semaines. Donc franchement, franchement, pour l'instant, il n'y a pas de raison majeure d'imaginer que ce soit autre chose qu'une consolidation.
Oui, mais le problème, c'est que cette baisse du Kospi de 10%, on est d'accord, c'est rien par rapport à l'ampleur de la hausse depuis le début de l'année, mais elle tient sur une ou deux valeurs. C'est ça qui est peut-être gênant et qui est peut-être un mauvais signe pour Wall Street. C'est l'effet de la concentration. Il suffit qu'une thématique ou deux, trois valeurs baissent pour qu'un indice perde 10% maintenant.
Oui, mais il les a gagnés aussi en séance. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est à proportion de la volatilité de cet indice que se fait cette consolidation, tout simplement.
Oui, oui. Un signe de la concentration quand même. Enfin voilà, il suffit de peu pour qu'aujourd'hui un indice plonge fortement. Bien sûr, le Kospi, c'est un des indices les plus volatiles du monde, mais est-ce qu'on peut imaginer que ce qui est arrivé ce matin à Séoul puisse arriver aussi à Wall Street compte tenu d'une grande concentration aussi sur la tech,
François? Là, je suis d'accord avec François, deuxième François. On est plus dans une respiration que dans une phase vraiment de stress après un parcours assez exceptionnel. Là, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que finalement, c'est venu d'Alphabet, la maison mère de Google, où on a découvert qu'il y avait un premier chercheur qui était parti, puis un deuxième. Ils sont partis chez Anthropic et OpenAI. Mm. Et finalement, on se dit l'IA va remplacer l'homme. Et lorsque vous avez deux ingénieurs qui partent dans un groupe qui en compte des milliers et des milliers, l'édifice s'écroule. Donc la bonne nouvelle, c'est que les ingénieurs ont encore un avenir, et notamment les ingénieurs qui travaillent dans l'IA. Et surtout, c'est plus un prétexte. On cherche un prétexte pour prendre quelques bénéfices. C'est venu d'Alphabet, ça s'est propagé en Asie, ça rejaillit là cette fois-ci sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs qui pèsent très très lourd dans les indices désormais, avec des acteurs nombreux qui pèsent, Nvidia en tête, mais derrière il y a Micron, Samsung, Skynix, Broadcom, etc. Verdict, probablement mercredi soir on va avoir Micron Technologies qui va publier. Si Micron Technologies, qui est un des acteurs majeurs dans la fabrication, conception de puces mémoire, dépasse ses attentes, on va remettre, comme on dit, une pièce dans la machine et la belle histoire va continuer de s'écrire. S'il déçoit véritablement, là, il va falloir réfléchir sur les niveaux de valorisation.
Pour faire un lien avec notre scénario de taux, ce à quoi on assiste du point de vue des investissements dans l'IA et dans les logiciels et dans la tech, globalement, il faut bien avoir en tête que ça contribue aujourd'hui très significativement à l'inflation américaine. On retrouve dans les chiffres de l'inflation américaine une énorme contribution de la part de justement tous ces composants informatiques qui rentrent dans le prix d'achat des machines, des téléphones, des ordinateurs que les gens achètent de plus en plus pour internaliser de l'IA. Et donc, on voit bien que la Banque centrale américaine, non seulement n'a pas réussi à revenir à un taux d'inflation cible à 2%, on est au-dessus de 3% depuis plus de 5 ans, et donc on n'a pas réussi à juguler cela.
Oui.
On attend de voir pour les boucles inflation-salaire, pour l'instant ce n'est pas le cas, et je pense que les hausses de taux, si elles arrivent, seront faites pour juguler, en tout cas en Europe, c'est ce qu'on a vécu, mais je pense que si c'est le cas aux États-Unis, ce sera pour empêcher également qu'il y ait des hausses de salaire inflationnistes. Mm-hmm. Mais en revanche, on a un vrai sujet, c'est que la multiplication par deux ou trois du coût de la mémoire, le phénomène de rareté que nous avons dans les data centers et toute la demande et ces investissements qui arrivent de manière colossale à l'échelle macroéconomique sont très inflationnistes. Et donc,
c'est à la fois la croissance et l'inflation.
C'est les deux à la fois. Et de la croissance économique, ouais, et de l'investissement et de l'inflation, parce que la rareté fait les prix et les prix montent de manière très conséquente. Et comme c'est l'essentiel des investissements du moment, on a une composante inflationniste qui est tout à fait redoutable.
Mais alors figurez-vous ce que vous êtes en train de dire, vous aussi, pour les agences matrimoniales en Corée du Sud. C'est un article Reuters qui nous apprend qu'en Corée du Sud, un emploi ou un conjoint chez Samsung ou SKNX, c'est très très recherché. Hein. Oui, oui. Selon les agences de rencontres sud-coréennes, les salariés de ces entreprises, donc Samsung Electronics, SKNX, les salariés de ces entreprises sont désormais classés au même rang que les médecins, les avocats ou d'autres professions traditionnellement considérées comme l'élite. Les primes liée au boom de l'IA crée un effet important et une nouvelle classe d'employés aisés qui attire énormément dans les agences matrimoniales sud-coréennes.
De mémoire, c'était 250 000 dollars les primes par salarié chez Samsung négociées par les syndicats récemment. Et donc, oui, effectivement, ça peut attirer sur des profils de rencontres en ligne. Mais ça montre bien qu'on a une phase où il y a un engouement absolument massif et on a des effets de bord. Ça peut être sur les sites de rencontres, ça peut être sur d'autres aspects. On l'a vu, vous parliez de ressources humaines. Les ressources humaines dans l'IA, oui, on a vu des embauches, je crois que le chiffre était à 1 milliard. Donc en stock options, salaires et autres primes garanties. Donc, on voit bien qu'on est dans un autre monde.
Ça a peut-être relancé la natalité, François.
On l'a connu.
C'est pas nouveau. Hein. Il y a quelques trimestres, c'était les détenteurs de crypto, du bitcoin. Donc, on voit que la roue tourne.
Bon, pour les investisseurs actions européens, effectivement, on a peut-être notre chance.
Alors, je sais pas. Je sais pas. Depuis le début de l'année, c'est quoi la plus forte hausse du CAC 40? Ça doit être SC Microelectronics, non? Oui. Voilà. Est-ce que si vous pouvez témoigner d'ailleurs, si vous nous écoutez, vous nous regardez, employés, salariés d'SC Microelectronics, est-ce que vous voyez que sur les réseaux sociaux, ça marche et que ça attire du monde, le fait que vous soyez chez STM? C'est quand même la plus forte hausse du CAC depuis le début de l'année. C'est pas rien.
Malgré la correction.
Effectivement. Le CAC 40, donc, à -0,3 cet après-midi, notre indice phare. Un dernier mot pour parler de la tech de SpaceX aussi, qui tout à l'heure, SpaceX, c'est Antoine qui nous le faisait remarquer à l'ouverture de Wall Street, est passé sous son premier cours de cotation. Alors, il y a eu le prix d'introduction à $135 et le premier cours, c'était à peu près 150. SpaceX est passé sous les 150 tout à l'heure. Retour au pas de tir, a tweeté tout à l'heure Laurent Martin, qui nous accompagne souvent dans cette émission. Retour au pas de tir. C'est la quatrième baisse d'affilée là pour SpaceX. François Chollet, parce que vous appelez tous les deux François, alors il faut que je vous distingue quand même. François Chollet, comment vous regardez cette aventure SpaceX? On vous a pas encore entendu là-dessus.
Alors, c'est une aventure qui est un vrai succès. D'abord, pilotée par des banques introductrices qui étaient évidemment très intéressées à la réussite du projet d'introduction de ces titres et de cette augmentation de capital. N'oubliez pas que c'est une levée de capital pour SpaceX qui a été faite par Elon Musk. Deuxièmement, pourquoi il faut que ça marche? Parce qu'il y a beaucoup de choses à placer sur le marché aujourd'hui pour ces banquiers d'affaires. Il y a effectivement ces titres SpaceX, mais on a aussi les grands joueurs qui aujourd'hui investissent énormément, qui se sont endettés, et puis maintenant qui commencent à émettre du capital pour lever de l'argent et continuer à accélérer les investissements. C'est le cas d'Alphabet, c'est le cas de Meta. Oui. Donc on a ces éléments-là. On a les introductions à venir. N'oubliez pas Anthropic et OpenAI.
Beaucoup de nouvelles actions créées.
Et donc il y avait nécessité de faire cette introduction et de la réussir pour que les particuliers puissent trouver le goût de revenir acheter à l'introduction des titres avec des flambées initiales et des gains rapides. Ça a été parfaitement le cahier des charges défini pour l'IPO de
SpaceX. Et on repère 25% depuis les plus hauts.
Mais effectivement, on a évidemment des multiples de valorisation qui ne sont pas raisonnables. Et donc, vous payez une entreprise, alors la valorisation, on va la laisser de côté, mais n'oubliez pas que c'est une entreprise qui fait 18 milliards de chiffre d'affaires et qui perd 5 milliards par trimestre, et vous la payez au même prix que Microsoft, qui fait plus de 340 milliards de chiffre d'affaires avec des marges à plus de 200 milliards. Donc, on est dans un autre univers. On a acheté non plus la Lune, mais Mars. C'est normal, à un moment donné, qu'il y ait un retour de papier. Maintenant, ne vous trompez pas, ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire pour SpaceX. SpaceX va trouver un équilibre. La valeur fondamentale pour des valeurs liées à Elon Musk, c'est assez difficile à donner parce que c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, que ce soit pour Tesla, que ce soit pour SpaceX aujourd'hui. Donc ce sera difficile. Mais objectivement, la valeur d'analyste financier sur SpaceX, c'était plutôt la moitié du cours d'introduction que le cours d'introduction. Et donc, si on veut patienter un peu, objectivement, on peut encore imaginer que le titre consolide un petit peu, mais si vous êtes un investisseur à 5-10 ans, c'est pas des niveaux stupides à regarder.
Oui, oui. François, pas des niveaux stupides à regarder. Il a relâché 25% ce titre depuis les plus hauts. Est-ce que ça peut même être un début d'opportunité d'achat où on attend?
Oui, sous 150, ça peut redevenir intéressant, effectivement. Oh. Là, ce qu'il faut voir, c'est que dans quelques jours, il va rentrer dans les indices, et donc dans les ETF. Et donc, on aura probablement là un prix d'équilibre parce que ça va créer un flux acheteur mécanique. Ça reposera pas du tout sur la valorisation de l'entreprise, sur les projets, etc. Ce sera une opération technique, mais ces opérations techniques génèrent des flux monstrueux sur un petit flottant. Donc, il peut y avoir encore un beau rallye à très court terme avant que le titre se stabilise et devienne un peu plus mature. Mais là, c'est vraiment les premiers pas. Comme un bébé qui commence à marcher, il y a des chutes. Donc après, ça devrait mieux se comporter, même si avec Elon Musk, il faut s'habituer à la volatilité parce que c'est quelqu'un qui est quand même non seulement volubile, mais il est un petit peu cyclique. Et donc, il peut y avoir des sorties.
Et il ment beaucoup. En tout cas, il dit beaucoup de choses qu'il ne réalise pas au marché et aux investisseurs. Mais vous avez raison de le rappeler, François, le flottant est très faible. Et puis, on a transformé toutes les règles d'accès aux indices pour que le titre puisse rentrer dans les grands indices, notamment le S&P 500. Et croyez-moi, derrière, c'est des milliers de milliards de dollars d'épargne qui vont pouvoir s'investir sur le dossier
spécifique. Qui n'y sont pas encore.
Oui, mais qui ne pourront pas y être, tout simplement, parce qu'il n'y a pas l'offre de flottant pour ce faire. À l'échelle de la valorisation, de la capitalisation de SpaceX et de la place que le titre devrait avoir dans l'indice par le poids de sa capitalisation, on n'a absolument pas les éléments de flottant qui nous permettront d'y être.
On poursuit nos échanges, on est à un quart d'heure de la clôture, on accélère là dans la dernière ligne droite de cette séance. Notre CAC toujours en baisse, mais une baisse très limitée finalement, moins 0,4 cet après-midi, alors que l'Eurostock 50 souffre davantage. Il perd 1% l'Eurostock 50, ce qui sauve le CAC cet après-midi, c'est nos mal-aimés de la tech. Vous voyez, ces valeurs que le marché n'arrête pas de vendre au sein de la tech, cette fois profitent des difficultés des champions de la tech. Les champions de la tech qui souffrent aujourd'hui, c'est STM par exemple, moins 8%, et du coup les mal-aimés du secteur, eux, en profitent. Dassault Systèmes gagne 2,5% par exemple, Capgemini gagne 1,8%, on a aussi Airbus en hausse de 2,3%. Et puis les constructeurs auto aussi à suivre, on a eu les chiffres des nouvelles immatriculations en Europe, et les Chinois continuent de gagner des parts de marché. Stellantis recule en ce moment de plus de 6%, la baisse s'accélère, Renault de son côté perd 5%. On en parle avec François Monnier et François Chollet ce soir. C'est tout un symbole quand même, hein, sur les parts de marché. Les constructeurs chinois en gagnent encore au mois de mai, et ça se traduit concrètement dans la séance du jour, François.
Oui, c'est non seulement c'est un symbole, mais on le voit, vous parliez de Stellantis. Stellantis vend des sites aux Chinois pour qu'ils s'installent en Europe. On voit que l'appétit, en tout cas le temps de cerveau disponible d'Elon Musk, il est plus forcément sur Tesla, en tout cas la partie automobile de Tesla, mais quand il s'intéresse à Tesla, c'est plutôt sur les robots Optimus qui veut développer et commercialiser le plus rapidement possible. Donc on voit que oui, ils ont gagné la bataille de la voiture électrique. Pas cher, efficace et qui répond en tout cas au pouvoir d'achat du plus grand nombre. Et les exportations, elles le font que de commencer. Ça remonte à des années en arrière, lorsque en Europe on essayait de résister face à l'assaut des voitures japonaises. Donc ça, c'est du temps de Calvet pour Peugeot. Oui. Donc c'est très très ancien. Mais voilà, c'est pas la première fois que le marché européen se fait attaquer. Simplement là, c'est plus dangereux parce qu'il y a une disruption technologique qui arrive avec l'électrique.
Mais dans quoi il faut investir du coup en Europe? On a beaucoup parlé du marché américain, là, pour ceux qui choisissent l'Europe, en plus les valeurs européennes sont éligibles au PEA quand même, il faut privilégier quoi aujourd'hui?
Dans la value, peut-être pas aller sur l'automobile, mais plutôt aller sur la banque. On a des banques qui fonctionnent plutôt bien, qui distribuent des gros dividendes, des généreux dividendes, qui sont alors pour le coup sous-valorisés. On est dans un contexte européen où il peut y avoir à nouveau un petit peu de la consolidation. C'est timide, mais on le voit entre les Italiens et les Allemands. On voit aussi que maintenant, on a pris conscience qu'il fallait peut-être arrêter de rajouter des contraintes réglementaires aux contraintes réglementaires, puisque de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, on dérégule massivement. Donc là, on voit que ça, l'étau se desserre pour que les entreprises, les banques puissent davantage développer leur activité. Donc ça, on est vraiment, je pense, c'est une opportunité, en tout cas, d'avoir de la value. Et on peut avoir de la croissance, hein, on parle beaucoup de tech, mais dans un portefeuille, c'est quand même bien d'équilibrer ce qu'on appelle les ratios cours sur bénéfices, PER. Quand vous achetez des entreprises ou ASML, vous en parlez tout à l'heure, c'est des PER de 40, 50 fois. Une banque, ça se paye 8 à 9 fois, voire 10 fois maximum. Donc ça permet de vraiment marcher sur deux jambes.
Donc secteur bancaire prioritaire pour ceux qui veulent diversifier un petit peu.
Pour jouer l'Europe, oui.
Ouais. Et pour vous, François, quel secteur?
Alors, si c'est la question qui concerne le secteur automobile, j'avoue qu'on est à l'écart du secteur depuis maintenant bien longtemps. Je pensais qu'il y aurait nécessité d'attendre une reprise des volumes de vente des constructeurs européens pour se réintéresser au secteur. Je pense que on a aujourd'hui pas la preuve de cette reprise, clairement. Et donc, le sursaut du côté des marchés viendra plutôt de la stratégie. Et je pense que Stellantis, qui... aujourd'hui, ils proposent, dans un partenariat avec des Chinois, d'ouvrir des usines et des capacités de production en Europe à des partenaires chinois pour employer les surfaces industrielles du groupe. C'est plutôt dans le bon sens, parce qu'en fait, leur rattrapage technologique, il est quasiment, à ce stade, impossible à faire. Donc, on a besoin, comme on a eu besoin... Les Chinois ont eu besoin de transferts technologiques à une époque pour parvenir à faire des avions ou que sais-je, en copiant un peu ce que faisaient les ingénieurs occidentaux. Clairement, nous, aujourd'hui en Europe, on a besoin d'aller copier un petit peu et de récupérer un peu de cerveau de ces ingénieurs chinois qui sont très nombreux en nombre, très qualifiés et qui montrent des merveilles dans le secteur industriel.
Non seulement copier, mais aussi divers. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il venait de dire. L'automobile, c'est pas un secteur facile en bourse, et ça risque de durer durablement. Ce qu'on voit, nous, c'est que Stellantis, Tesla, relais de croissance avec les robots. Renault, relais de croissance avec la défense, ça peut être 5% de chiffre d'affaires. Valeo, lorsque le titre a flambé de près de 20%, c'est on a des projets dans l'IA. Donc on voit que constructeurs et équipementiers essaient de trouver des activités en dehors de leur périmètre. Michelin essaie de sortir aussi du pneumatique.
Pour faire quoi?
Bah, ils essaient de trouver des relais de croissance. Là, ils ont un petit peu de mal, mais ils ont des vrais projets pour essayer de sortir de ce secteur-là. Donc, on voit que tout le monde essaie de trouver une martingale en se disant que finalement, bah, la concurrence, elle va faire que de s'intensifier.
Oui, et en termes de secteur, alors vous nous disiez l'un et l'autre, automobile, méfiance, et plutôt secteur bancaire qui était en privilégié en Europe du côté de François Monnier. Pour vous, François Chollet, un autre secteur à privilégier que le secteur bancaire dont on a déjà parlé ou pas?
Allez, moi je vais prendre le risque puisque on est là pour en prendre un peu. À l'inverse du secteur automobile, je pense qu'on a trouvé des points d'équilibre ou d'entrée sur le secteur du luxe et de la consommation discrétionnaire. L'Oréal a fait la preuve, en tout cas, de très belles publications trimestrielles avec des croissances de chiffre d'affaires à deux chiffres, avec en tout cas un statut de valeur de croissance prouvé dans un contexte difficile. Je pense à des dossiers comme Essilor qui sont revenus pour moi à des prix d'achat, toujours dans la consommation discrétionnaire. Je pense à des dossiers comme LVMH, voire même, allez, je me lance, Hermès ou Kering, dans le luxe. Je crois que les nouvelles du jour pénalisent un peu les titres, mais en termes de multiples et de timing, il me semble qu'on n'est pas très loin d'avoir le bout du tunnel sur le secteur.
Oui, et pourtant, hier, Hermès a particulièrement souffert, hein, quand même. Ce titre Hermès, avec une note négative, crainte de ralentissement.
C'est pour peut-être ça que je prévenais avant de le dire que c'était déjà contrariant.
Voilà,
c'est ça. En étant.
Parce qu'il y avait une forme d'algorithme de croissance presque chez Hermès. Là, on sent qu'il est peut-être un peu perturbé, cet algorithme de croissance.
Oui, alors Hermès est toujours hors sol parce que vous avez des carnets de commandes qui justifient, et de la croissance solide qui justifie des multiples extrêmement élevé.
Et puis c'est peut-être une marque tellement référente qu'on la voit un peu trop partout.
Oui, mais ça vaut déjà deux fois plus que le reste du secteur. Donc si on regarde le reste, on est en dessous de 20 fois. C'est des multiples qui sont acceptables compte tenu de la qualité des fondamentaux et des positions que ces groupes ont mondiales. Clairement, quand vous allez sur un portefeuille de marques ensuite de LVMH, les multiples pratiqués sont assez raisonnables aujourd'hui.
Oui, oui, mais par exemple Hermès, on peut se demander, c'est vraiment l'ultra-exclusivité, le grand luxe, quoi, l'ultra-luxe, et pourtant c'est une marque qu'on voit partout, et toute entreprise a vocation à croître, à trouver de nouveaux clients.
Bonne synthèse.
Est-ce que là, c'est pas un peu paradoxal, à savoir cultiver juste pour Hermès, le challenge, soigner l'exclusivité tout en gagnant encore des parts de marché. Difficile. Être présent partout tout en étant exclusif. C'est un peu paradoxal. Comment ils vont faire?
C'est valoriser l'artisanat d'excellence, comme ils le font depuis la création de la société. Ils ont été capables de créer des structures pour récupérer de l'artisanat, je pense en Chine par exemple, pour arriver à concentrer cet artisanat d'excellence trouvé dans toutes les provinces chinoises pour essayer de proposer aux Chinois aussi des produits d'exception chinois. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de limite au modèle de Hermès. Et je crois que ce modèle dépasse le simple sac à main tel que on le voit aujourd'hui quand on regarde la valorisation ou le parcours du titre.
Et vous citiez Ferrari.
Oui, parce que je voulais faire une synthèse entre le luxe et l'automobile qu'on met de côté. Ah. Ferrari fait partie des sociétés qui ont été bien abîmées par l'annonce de cette voiture électrique qu'on qualifie d'iPhone automobile. Mais clairement, les fondamentaux sont excellents et je ne vois pas, là aussi, Ferrari ne pas arriver à maintenir la rareté qui fait le vrai luxe, parce que vous le soulignez aussi, si tout le monde a le même sac à main à un moment donné, ce n'est plus du luxe, ça devient un bien d'objet courant, et donc la difficulté à faire du volume et du luxe, ça restera une clé. En tout cas, Ferrari a montré dans le passé qu'ils avaient une base de clientèle assez exceptionnelle, et des collectionneurs qui sont là pour essayer aussi de garder, de collectionner ces véhicules qui s'arrachent, y compris sur le marché de l'automobile.
Vous n'avez pas perdu 2-3 étoiles dans les yeux quand vous avez vu cette nouvelle Ferrari électrique? Non, elles sont toujours là dans vos yeux, les étoiles sur Ferrari. Ce titre, en termes de potentiel, garde tout son potentiel à vos yeux?
Pour moi, c'est une vraie valeur du luxe et loin d'être un simple constructeur automobile.
Allez, il nous reste 2 minutes avant la clôture pour alors évoquer ensemble deux thématiques. D'abord, le Brexit. Joyeux anniversaire, ou pas d'ailleurs, parce que c'était il y a 10 ans, jour pour jour, le vote des Britanniques en faveur du Brexit. 10 ans après, avec un peu de recul, donc François Monnier, vous êtes deux François là, c'est pas pratique. Hein. Quel bilan vous tirez de ce Brexit? Bilan économique, sachant qu'on va encore changer de Premier ministre au Royaume-Uni, puisqu'ils ont, enfin, Keir Starmer a annoncé hier sa démission. 7e Premier ministre à venir en 10 ans.
Bah, c'est paradoxal. D'abord, il y a un Premier ministre qui quitte son poste alors qu'il voulait plutôt un rapprochement avec l'Union européenne. Et on lui reproche de ne pas fournir assez de croissance économique. Et on sait que le Brexit a détruit de la valeur, clairement. Et pas uniquement au niveau de la City, mais ça a détruit du PIB. Et donc, on a un Royaume-Uni qui se cherche. Et c'est plutôt les pourfendeurs du Brexit, en tout cas ceux qui poussent le Brexit, qui ont plutôt le vent en poupe. Et donc, c'est paradoxal. C'est une situation qui est extrêmement compliquée. On a une population britannique qui est fracturée. Et on ne voit pas de solution à court terme. On a même eu, il y a quelques jours, avant la démission du Premier ministre, le ministre de la Défense qui a démissionné en disant vous me demandez d'investir pour protéger le pays, le royaume, et finalement, moi, je n'ai pas de budget, donc je ne peux pas travailler. Donc on voit qu'on est au bout d'une aventure et il n'y a pas de plan B. Donc, et ceux qui ont provoqué ce Brexit vont probablement prendre à nouveau les commandes du pays. Sans véritablement plan, puisque là, pour le coup, ils ne vont pas annoncer qu'ils quittent encore un peu plus l'Union européenne, parce qu'ils vont se retrouver très seuls, et ça a montré que c'était une puissance moyenne, hein, le Royaume-Uni, et ils ne peuvent pas non plus compter sur les États-Unis pour se rapprocher, vu les comportements de Donald Trump. Donc, ils sont... ils ont la démonstration que c'est une île. Exactement. Et qu'ils sont vraiment isolés.
C'est une vraie île.
Et ça, ça risque de durer un certain temps.
Oui. Et pourtant, les taux britanniques, depuis l'annonce hier de la démission de Keir Starmer, ne se sont pas particulièrement tendus. François, les 10 ans du Brexit, comment vous les regardez?
Brexit était un acronyme pour Bretagne et Grande-Bretagne, exit. Et là, on est sur le brigret, c'est-à-dire l'exit et les regrets de cette sortie. C'est le mot qui est en train de revenir dans la presse anglo-saxonne. Mais très objectivement, ils ont perdu une bonne partie de ce qu'ils pensaient trouver. C'est-à-dire, ils pensaient attirer des investisseurs, des capitaux, faire une place, un Singapour européen à l'intérieur de l'Europe, à proximité, etc. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Je reconnais que la France a attiré beaucoup, dans la finance notamment, la place de Francfort aussi. On a eu un exode de tous les cadres qui avaient les statuts les plus privilégiés de Londres. On a vu cette population-là quitter le Royaume-Uni pour revenir soit en zone euro, soit ailleurs. Mais quitter en tout cas, et donc on voit bien que c'est extrêmement difficile. Il n'empêche, c'est un partenaire clé pour nous, c'est un partenaire clé d'abord dans la défense, ça reste une place industrielle dans notre région du monde. C'est pas forcément quelque chose qui est aujourd'hui, c'est pas être envié, mais il n'empêche qu'ils ont des difficultés. Et je ne suis pas certain que ceux qui ont créé les difficultés soient les mieux placés pour les résoudre aujourd'hui.
Oui, avec cette population britannique un peu schizophrène, hein, qui effectivement s'émeut de la situation du pays. Et plus le pays est en difficulté, plus les gens trouvent bien le Brexit. Alors que le Brexit est à la source d'un certain nombre des difficultés actuelles. Très compliqué à gérer politiquement, on aura l'occasion d'y revenir. Dans un instant, la clôture, on va la vivre avec Antoine. Mais d'abord, François et François, on entre dans la Data Room. C'est le monde dans son plus simple appareil. Ses courbes, ses contours, tels que nos experts, François et François, vont nous les offrir. François et François, Chollet, Monnier, êtes-vous prêts?
Prêts.
À nous livrer de belles datas. Vous êtes prêts tous les deux. On démarre avec vous, François Chollet. Votre chiffre ce soir, 100.
Le chiffre 100, c'est l'âge d'un monsieur qui s'appelait Alan Greenspan, qui était le maestro des banquiers centraux, celui qui a régné sur la réserve fédérale américaine pendant pendant près de 20 ans. Il a été le banquier central de la croissance stable, avec la démonstration qu'une banque centrale était capable d'assurer une croissance régulière de l'économie sans inflation. Et donc, c'était quelque chose de nouveau dans l'histoire des marchés. Ça a été aussi celui qui, en réalité, a permis l'apparition de bulles financières. Souvenez-vous, la bulle des années 2000, qu'on leur reprochait de ne pas avoir pu, entre guillemets, contrecarrer à l'époque.
Qu'il a qualifié lui-même d'exubérance irrationnelle des marchés. La formule vient de...
Exactement. Et donc, il a changé une règle du jeu fondamentale pour les banquiers centraux, qui était celle où la banque centrale est devenue le prêteur en dernier ressort, l'assurance finale de l'investisseur en action. Quand tout va mal, eh bien, c'est Greenspan qui a créé ce put des banques centrales qui fait que les investisseurs se disent, à la fin, ils vont ramasser et nous aider à remonter la pente. Et donc, Greenspan, c'est vrai que c'est une page d'histoire qui se tourne. C'est celui qui faisait des discours de 6 heures qu'on ne comprenait pas.
Et pas vous.
Et ça comprend, pas moi. Mais juste, ça contraste beaucoup avec la réunion du nouveau banquier central américain, qui, lui, a arrêté toutes les forward guidance et essaye d'avoir un discours concis.
Ah, c'est l'anti-Greenspan pour vous, Kevin Warsh, il y a un côté...
En tout cas, dans la communication, oui, il essaie de se positionner comme cela.
Après, il veut innover aussi, bien à sa façon. On va suivre ça, bien sûr. François, vous avez délivré avec cette belle data l'âge d'Alan Greenspan, 100 ans. Ah, l'âge qu'il avait hier, au moment de son décès. François, votre chiffre, 227%.
227%, c'est l'écart de performance entre la meilleure valeur du CAC 40 et la plus mauvaise. On a un CAC 40 qui fait quasiment rien depuis le début de l'année. Or, on a d'un côté STMicroelectronics, on en a parlé, qui gagne 185% depuis janvier, alors que l'autre, dans l'automobile, Stellantis perd plus de 40%. C'est la démonstration que oui, les ETF, c'est intéressant, mais si vous avez pris un ETF CAC 40, vous n'avez pas fait grand-chose depuis le début de l'année. Or, si vous avez fait du stock picking ou si vous avez confié votre argent à un gestionnaire de SICAV, de fonds, s'il a choisi les bonnes valeurs, vous pouvez créer beaucoup de valeur. Donc, on voit l'engouement sur la tech, il est très important. Ce qui manque, bien sûr, au CAC 40, et ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, on baisse moins que le marché, c'est qu'on n'a pas eu de valeur liée à l'IA, voire on n'en a qu'une, c'est STMicroelectronics, et ça pèse pas très lourd dans les indices, puisque les deux autres qui font quand même de la tech, Dassault Systèmes n'est pas vraiment sur cette thématique-là, et Capgemini non plus. Donc, on voit qu'on manque d'IA, mais lorsqu'il y a des prises de bénéfices sur l'IA, il y a aussi des solutions.
C'est fou quand même, on est sur le même indice, 227% d'écart de performance, 227% entre STM en forte hausse, plus forte hausse du CAC depuis le début de l'année, et Stellantis qui perd au contraire 42%.
En moins de 6 mois.
En moins de 6 mois, exactement. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. François Chollet, Montségur Finance, François Monnier, Investir dans un instant, c'est la clôture, on va la vivre avec Antoine. A tout de suite sur BFM Business.
À suivre dans BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris. BFM Bourse, la clôture de la Bourse de Paris.
Avec Antoine, rebonsoir Antoine.
Rebonsoir Guillaume.
Comment termine-t-on ce soir?
Comme c'est souvent une petite impulsion à la baisse marquée au fixing, on perd 0,71%, 8340 points, mais le CAC 40 résiste quand même par rapport aux autres places européennes, moins 1,28 pour l'Eurostock 50, moins 0,98 pour le DAX à Francfort, puis à noter l'Euronext Tech Leaders, là une bonne consolidation, moins 2,8%. Mais encore une fois, ce qui nous sauve, c'est la fameuse granularité du secteur tech, puisqu'on a d'un côté les semi-conducteurs qui ont subi l'impact de la très forte baisse du secteur ce matin en Asie, et puis du côté de Wall Street, là en ce moment, ST Micro signe la plus forte baisse du CAC à moins 8,5%, 63,45 Soitech qui est juste derrière à moins 7, 120,40 €. Le secteur auto, on en a beaucoup parlé pendant l'émission, mais effectivement les derniers chiffres de vente sont quand même vraiment pas bons. Stellantis perd encore 6,6% à 5,27 €, Renault moins 4,3%. 26,62 €. Mais ce qui nous a sauvés, c'est aussi dans la tech, et c'est précisément tous les secteurs censés se faire disrupter par l'IA. Dassault Systèmes a repris 2,3% à 17,43 €. On a Capgemini aussi, plus 1,88 €, 66. Mais la plus forte hausse du CAC, c'est la tendance qui régnait depuis le début de la séance. C'est le secteur de la santé qui nous sauve. Plus 2,77 € pour Eurofins Scientifique, qui est à 65,24 €. Et puis du côté du SBF 120, c'est vraiment un tir groupé. Medincell, plus 5,2 €, 36,36 €, Ipsen 3,44 €, 162,60 €, DBV Technologies plus 3,33 € à 2,87 €.
André Twain est avec nous pour Saxo. Bonsoir Andrea. Donc le CAC à moins 0,7 en clôture, comment interprétez-vous cette dernière ligne droite de la séance et les signaux qu'elle envoie pour la suite?
Bah, pour le coup, on a une séance qui a été assez volatile sur les indices américains. Ça a été plus calme sur le CAC, dans le sens où on a fait l'essentiel de la baisse à l'ouverture. On a eu un gap à la baisse sur le CAC. Et puis derrière, bon, on a continué à creuser un petit peu. Mais on n'a pas vraiment accentué les pertes. On a tenté un rebond en même temps que les marchés américains sur le buy the dip dont on parlait tout à l'heure, mais qui n'a pas forcément tenu. Hein. C'est ça qu'il faut aussi rappeler. C'est que peut-être que ce scénario d'achat sur repli fonctionne un petit peu moins bien, notamment qu'il a fonctionné au cours de l'année 2025. Donc sur le CAC, on est proche de niveau de support. Le plus proche, c'est 8300. Après, on a 8250, qui est un ancien niveau de résistance qui devient niveau de support aujourd'hui. Et puis le premier niveau d'alerte, il est plus situé autour des 8100 points. Et à l'inverse, si on veut réenclencher quelque chose de positif, il faut aller au moins chercher les 8460 points. On a un niveau de résistance intermédiaire à 8004. Et puis en objectif un peu plus long terme, on peut essayer de viser 8005. Mais ce n'est pas vraiment la question d'aujourd'hui.
Andrea avec nous, on est ensemble, c'est BFM Bourse jusqu'à 18h. On va vous apporter un max d'idées d'investissement aussi pour la suite. C'est parti.
BFM Bourse, on refait la séance.
Avec Clémence, Clémence de Rothiacop qui nous rejoint, gérante chez Richelieu. Bonsoir Clémence.
Bonsoir Guillaume.
Et alors Antoine, juste toujours intéressant parce que les banques d'affaires américaines adorent parler des marchés, des scénarios de marché, mais il se trouve qu'elles adorent aussi faire des prévisions, des probabilités sur plein de trucs dont le foot. Ils aiment bien scénariser les Coupes du Monde, notamment. On est en plein mondial, là.
Oui, il y avait des moyennes de banques d'affaires qui avaient été faites sur les probables vainqueurs de la Coupe du Monde. Et puis, il faut bien qu'ils concurrencent un petit peu Polymarket, hein, qui est en train de remettre en cause leur statut de prévisionniste numéro un du côté de Wall Street. Non, c'est Goldman Sachs qui a remis à jour ses prévisions concernant les vainqueurs potentiels de la Coupe du Monde de foot. Goldman donnait l'Espagne gagnante. Hein. Elle reste gagnante, mais a priori, derrière, c'est l'Argentine et la France tombent troisième.
Ah oui.
En fonction de ce qu'ils ont fait sur les derniers matchs. Et les autres vainqueurs potentiels sont très, très en dessous. Mais ouais, le trio de tête, ce serait France-Argentine. Ce serait Espagne-Argentine-France.
Voilà, Clémence.
Merci de me faire grâce, de me demander mon avis sur le foot.
Nouvelle prévision de Goldman Sachs sur ce mondial de foot. Ben oui, je sais que vous les suivez aussi, hein, ce mondial dans les salles de marché, etc. Bon, on est aussi à l'affût un petit peu. Bon, Clémence, le CAC 40 ce soir termine à moins 0,7%. Beaucoup de questions d'auditeurs encore sur le titre de CRSI ce soir. Alors, on va continuer d'en parler. Grizzly Research qui accuse de CRSI de trafiquer son chiffre d'affaires. De CRSI a répondu ce week-end. Il y a le titre reculé encore. Là, il rebondit. Là. Plus 26% ce soir de CRSI. Est-ce que c'est la fin des doutes ou c'est toujours le doute?
Non. Malheureusement, le groupe a notre sens. On a pour très longtemps avant de retrouver vraiment une crédibilité et une légitimité auprès des investisseurs. Parce que dès l'instant où, même si effectivement les pratiques de ces fonds vautours sont vraiment à remettre en cause parce qu'ils vendent à découvert, on sait, c'est limite de la manipulation de marché. Néanmoins, à un moment, le groupe s'est défendu expliquant qu'il y a des sites industriels qui peuvent montrer les partenariats, qu'il y a des audits qui ont été faits. À notre sens, il faudrait qu'ils prennent un auditeur indépendant pour vraiment que le marché soit rassuré sur certaines choses. On va devoir attendre au moins la publication début 2027 pour voir la transposition en chiffre d'affaires de leurs gros contrats aux États-Unis. C'est tout ça qui est remis en cause par ce fonds vautour. Pour nous, ça reste un investissement compliqué. Il y a une prime de risque qui va être très forte. Il y a une visibilité du coup qui est plus assurée puisque quid de la crédibilité de ce qui a été annoncé. C'est difficile qu'on quelqu'un met en avant des incohérences géographiques, remet en avant le principe même de certaines activités, de certains contrats. Pour nous, c'est un gros point d'interrogation. Donc, c'est difficile d'aller sur ce genre de dossier.
La façon dont tu as communiqué la direction, les détails ou l'absence de détails, enfin, comment vous regardez justement la riposte de la direction depuis?
Ils ont répondu plutôt point par point, donc ouais. elle est plutôt méthodique. Néanmoins, il va falloir davantage de détails puisque en face vous avez aussi un rapport qui était détaillé. Et puis c'est facile d'appuyer aussi sur un groupe qui avait tellement bien performé en bourse, qui évidemment il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà intégrées dans le cours de bourse et qui n'étaient pas encore effectives dans les comptes. Donc ça reste pour nous un dossier difficile. Le CEO a dit qu'il allait renforcer sa position au capital, qu'il allait racheter des titres. Ce sera un bon signal à donner au marché, mais il en faudra davantage à notre sens. Il faudra vraiment des publications qui rassurent et montrer patte blanche davantage que ce que nous avons aujourd'hui.
Et donc un auditeur indépendant, vous dites, ce serait
une bonne idée, oui, ce serait une bonne idée, bon. Ça pourrait rassurer.
De CRSI ce soir récupère 26%, mais bon, est très loin de rattraper ses pertes accumulées depuis la fin de semaine dernière, bien sûr. Les autres valeurs qu'on suit, Sanofi annonce le feu vert à la commercialisation de deux de ses traitements, notamment contre la sclérose en plaques. Sanofi gagne ce soir du terrain alors que le marché recule. Sanofi est en hausse, plus 1,3%.
Oui, alors il bénéficie aussi de la bonne tenue des secteurs défensifs aujourd'hui, hein, dans un marché où les cycliques et la tech baissent beaucoup. Oui. C'est une bonne nouvelle pour Sanofi. Ça va rester, cette indication-là de la sclérose en place va rester plutôt sur une niche de marché. On a en tête qu'il y aura quand même des produits concurrents de la part de Roche qui arrivent, de la part de Novartis aussi, à moyen terme. Le gros enjeu de Sanofi aujourd'hui, c'est il y a une nouvelle CEO, il y a une nouvelle femme forte à la tête du groupe depuis avril, c'est de mettre en place une stratégie pour gérer l'après Dupixent, qui est le gros blockbuster du groupe. 40% de son chiffre d'affaires, ça traite la dermatite atopique, donc c'est 40% de la partie respiratoire et derma. Et ça, on sait qu'il y a un des brevets importants aux États-Unis qui va tomber à partir de 2031. Donc c'est important de voir quelle sera la stratégie. On parle beaucoup de futures acquisitions. Le groupe pourrait avoir 10 à 20 milliards d'euros à allouer à la croissance externe, ce qui serait bienvenu. Et puis après, il y a 20% exposé au vaccin qui se tient bien. Il y a potentiellement des bonnes nouvelles à attendre à court terme sur cette division-là. Et la division aussi, 20% du chiffre d'affaires, c'est la division maladie rare qui là, et pour nous, c'est de la croissance visible et assez défensive. Donc ça, c'est une partie intéressante. Mais cette décote de valorisation de Sanofi se justifie aussi parce qu'on est vraiment à un tournant dans la stratégie et il va falloir remplacer ce gros blockbuster qui va tomber dans le domaine public dans quelques années.
Et on n'est pas encore convaincu qu'ils y parviennent complètement efficacement.
Non, il y a des recours juridiques, la stratégie n'est pas encore complètement claire, mais il y a quand même une dizaine d'années devant nous.
On est sur un secteur qui, d'après beaucoup d'experts, sera l'un des principaux bénéficiaires de l'IA, qui va, le secteur de la santé, être parmi les plus révolutionnés par l'IA. Et pourtant, au-delà de Sanofi, hein, c'est un secteur qui reste relativement en retard. Comment cette décote globale, vous parvenez à l'expliquer ?
C'est un secteur qui est à la fois en retard et qui finalement, en termes de valorisation, alors Sanofi mis à part, mais il y a des titres qui se payent assez cher. On a eu des très belles réussites, dont je pense notamment à UCB, qui a été une formidable réussite boursière de ces dernières années, ou un Galderma, etc. Donc il y a quand même des groupes qui sont positionnés sur des produits où on a une croissance importante. Mais c'est vrai que le secteur, ces dernières années, a un peu moins d'affection des investisseurs, mais pour nous ça reste du fonds de portefeuille intéressant à avoir.
C'est le problème, on est dans l'un de ces secteurs de fonds de portefeuille défensif, vous le disiez, alors que ce sera peut-être amené à devenir un vrai secteur de croissance avec l'IA. Pour l'instant, ce secteur n'a pas fait sa mue en matière de statut.
Il y a certains groupes de croissance à l'intérieur, ça c'est certain.
Bon, ce soir, ce secteur, en tout cas défensif, effectivement profite de l'état d'esprit des marchés. Un CAC 40 en baisse, les valeurs défensives du coup ont émergé, ont surperformé. Dans la santé, il y a aussi Eurofins qui termine plus forte du CAC à plus 2,8%. Airbus, autre valeur défensive, gagne 2%. Pernod Ricard aussi, valeur défensive, gagne 1,6%. Heineken, tiens, on parlait du mondial de foot il y a quelques minutes avec Antoine. C'est la valse des patrons. Alors chez Heineken, ça y est, ils ont nommé leur nouveau patron, Rafael Oliveira, va prendre le poste de PDG. Voilà.
Oui, d'origine brésilienne, aucune expérience dans les boissons alcoolisées, néanmoins forte expérience dans les produits des biens de très grande consommation. Il était avant chez JDE Peet's, qui s'est fait racheter par l'américain Dr Pepper. Et là, il avait mené vraiment une restructuration profonde, une simplification. Il avait vraiment coupé les coûts, c'était important. Ça, ce sera intéressant parce que finalement, quand on regarde Heineken, on n'est toujours pas revenu aux marges d'avant pandémie, d'avant 2020. Donc il y a quand même des choses à faire. Certainement. Ce qui est intéressant aussi, si on regarde tout son historique, c'est aussi une forte expertise dans les marchés émergents. 60% du chiffre d'affaires d'Heineken est dans les pays émergents. Ce monsieur était chez Kraft Heinz avant s'occupait notamment de ces marchés-là. Donc c'est une expertise très intéressante. Et puis ce choix-là montre que le conseil d'administration a envie d'un regard neuf sur ce secteur-là. Et le groupe peut-être peut se diversifier aussi dans tout ce qui est non-alcoolique.
Voilà.
Ce que fait aussi un Unibrew, par exemple, avec en rachetant Britvic, se développe davantage dans la partie boisson non-alcoolisée. Une diversification qui peut être intéressante, lisser la cyclicité et puis la concurrence qu'on peut avoir chez les brasseurs.
Wall Street, on suit SpaceX qui est passé tout à l'heure. On vous en parlait dans USA Today avec John Plassard. Le titre est passé tout à l'heure sous son premier cours de cotation, figurez-vous. Oui, oui, pas le prix d'introduction, hein, mais on est passé sous le premier cours de cotation qui était à l'époque, le 12 juin dernier, ça paraît loin, atteint à $150. On est passé sous les 150 tout à l'heure sur SpaceX. On en parlait aussi avec John Plassard, séquence à retrouver sur l'application BFM Business dans USA Today. Oui, quatrième baisse d'affilée pour SpaceX qui, alors tout à l'heure, reculait, puis depuis, un mouvement de rebond là. Et le titre, à l'instant, regagne 3%. Dernière question sur Pierre et Vacances, qui pourrait devenir un groupe émirati. On a appris hier qu'un fonds d'Abu Dhabi comptait racheter Pierre et Vacances. Il propose 1,90€ par action, ce qui semble pas forcément énorme d'ailleurs.
Ouais, 2€ maximum, parce qu'il y aura un dividende exceptionnel potentiellement. Effectivement, quand on regarde le loin en arrière, le parcours boursier a été laborieux. Hein. Le titre valait 30 en 2007, il est descendu à 0,81 en 2022. 2022, c'est l'année de la énorme restructuration du groupe. Des créanciers sont rentrés pour aider. Le groupe était en difficulté. Effectivement, ça fait seulement une prime de 13% par rapport au cours de clôture, mais si on regarde quand même, ça fait une prime de 35% par rapport au point bas aussi de 2022. Donc, c'est, à notre sens, il faut qu'ils aient 80% en fait pour que l'offre, l'OPA passe. Il y a déjà une majorité des actionnaires, plus de 50%. Il y a trois actionnaires de référence qui ont dit qu'ils apportaient à l'offre, qu'ils étaient favorables à cette offre-là. Unanimité du conseil d'administration également. Et on sait qu'il y a à peu près 24% chez les créanciers qui ont tout intérêt à trouver une fenêtre de sortie. Donc, les créanciers, à notre sens, devraient apporter à cette offre puisqu'ils n'ont pas vocation à être actionnaires à long terme. Sont des financiers. Donc, à notre sens, les 80% vont être faciles à atteindre. Après, les 90%, donc, pour permettre un retrait de la bourse, c'est encore une autre question. Néanmoins, on peut comprendre, on n'est pas actionnaire, mais on peut comprendre la frustration de certains minoritaires en se disant il y a quand même du potentiel, il y a une énorme restructuration qui a été faite. Là, on voit d'ailleurs le management a annoncé plutôt des bonnes réservations à venir. Alors, ils ont quand même une fenêtre de visibilité qui est assez court terme, mais comment savoir quand même les réservations pour cet été, plutôt positives. Donc, c'est vrai que c'est toujours frustrant pour les minoritaires. Oui. Les minoritaires qu'on peut être d'avoir une sortie de bourse sur
ces niveaux-là, voilà, ouais. La prime aurait pu être un peu plus importante.
C'est ça.
Vers une accélération sans doute aussi de la montée en gamme de Pierre et Vacances avec cet actionnaire d'Abu Dhabi.
Oui, certainement. Oui.
Merci Clémence de nous avoir accompagné. Clémence de Rothiakov pour Richelieu. On salue André Twenny qui nous accompagnait depuis Saxo. Dans un instant, 18-19 avec Stéphanie Colo. Le CAC perd ce soir 0,7% et le débrief à suivre avec Antoine. Bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.